Merci. Alors, les baptêmes, c'est toujours quelque chose qui m'émeut beaucoup. Hein. J'ai retenu mes larmes, mais parce que dans le ciel, il y a beaucoup de joie. Quand une personne vraiment se donne à Christ, et moi, c'est quelque chose, je trouve ça trop beau, quoi. Donc voilà, donc si je suis encore un peu émotive, c'est de la bonne émotion. Après, il y a aussi peut-être une émotion qui est un peu plus de monde, mais ça, c'est autre chose. Alors moi, j'avais vraiment à cœur de vous parler. En fait, il y a quelques mois, le Seigneur m'a parlé au travers d'une image. Et vous savez, dans la Bible, Jésus a beaucoup parlé au travers d'images, de paraboles. Et moi, c'est quelque chose au travers duquel il me parle encore beaucoup aujourd'hui, c'est les images. Donc régulièrement, j'ai des images et des choses vraiment de la vie quotidienne, du concret par lesquels il me parle et qui font ressortir des principes bibliques et qui... Enfin, des principes que je n'ai pas inventés, hein, mais qui m'aident du coup à mettre en forme et à mieux comprendre et à concrétiser ces choses dans ma propre vie et pour notre Église. Et donc du coup, mon thème aujourd'hui, c'est j'ai vraiment senti Dieu me parler sur le fait de garder le cap. Et garder le cap, donc ça fait référence à un voilier. Et Dieu m'a beaucoup parlé avec l'image du voilier. Alors j'ai eu le privilège pendant mes vacances de rencontrer une cousine éloignée qui aime beaucoup la voile, qui m'a même pris sur son voilier. Et voilà, j'ai pu expérimenter ça avec ses joies et ses risques. Mais vraiment, j'ai profité pour poser plein de questions à elle, à tous ceux qui côtoyaient ce milieu-là, parce que je ne connais pas trop. J'avais fait un petit camp voile quand j'étais en classe de mer, en CE2, où on faisait de l'optimiste. Franchement, j'avais bien aimé. Hein. J'avais déjà quelques petites notions, mais honnêtement, j'ai beaucoup appris cet été et j'ai vraiment senti que Dieu vraiment soulignait des choses pour moi personnellement, mais aussi pour notre Église, pour notre communauté Connect et pour vos communautés là où vous êtes, puisqu'il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui vraiment est parlant pour l'ensemble du corps de Christ. Donc, un voilier. En fait, Dieu, c'est comme si j'ai vraiment senti, comme le Seigneur me disait, mais déjà, qu'est-ce qu'on veut vivre cette année? Qu'est-ce qu'on veut vivre? C'est le mois de septembre, chacun, vous avez dû refaire un peu vos petits engagements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je m'inscris au sport? C'est quoi mon objectif cette année? Qu'est-ce qu'on veut vivre ou pas? Et on a tous un peu fait ce choix-là. Et en tant qu'Église, en tant que communauté aussi, c'est vraiment quelque chose lesquels on veut se rappeler aussi. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Et et c'est comme un peu si vraiment on avait un cap et le Seigneur nous embarquait vraiment dans cette traversée pour vraiment naviguer avec lui sur ce voilier et qui nous donnait des clés pour atteindre vraiment ce but qu'il nous a fixé pour vraiment atteindre et permettre cette traversée. Alors les voiliers, il y a deux types, si tu peux juste rejoindre les images d'avant. Il y a des voiliers donc classiques tout petits, voilà, un optimiste, voilà, donc c'est ça qu'on apprend, qu'on apprend quand on est seul ou à deux, les tout petits. Et après, je crois qu'il y avait une autre image, il y a ce genre de voilier. Alors celui-là, c'est pour aller plus loin. Et le Seigneur a vraiment parlé, le petit voilier, c'est un peu comme nous, notre propre vie. On a besoin, Dieu, il nous fixe des caps, il nous fixe un objectif, il nous a confié à chacun une mission individuelle. Et à la fois, alors encore avant, s'il te plaît, tu peux laisser. Le gros voilier, c'est vraiment notre mission et c'est vraiment ce qu'on vit en tant que communauté, en tant qu'enfant de Dieu. C'est vraiment le gros voilier sur lequel on a tous embarqué ensemble en ayant donné notre vie à Christ, en disant, ben voilà, moi je choisis de faire partie de la famille de Dieu. En faisant ça, on a tout simplement embarqué sur ce gros voilier. Et c'est ça, c'est vraiment les enfants de Dieu, c'est vraiment notre communauté aussi, chacun de la communauté dans laquelle vous êtes. Et c'est seulement sur les gros voiliers qu'on pourra aller plus loin. On est d'accord, les petits voiliers, on peut traverser un lac, on peut aller un petit peu loin. Mais pour traverser l'Atlantique, voilà, c'est mieux ce genre de choses. Et donc, on peut passer à l'image suivante. Donc, Dieu m'a vraiment parlé sur... je vais reprendre les principes du voilier tout simple. Les principes sont les mêmes pour les gros voiliers, même si les noms ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il y a vraiment trois parties. Il y a vraiment la voile, en gros le gouvernail, la barre et le safran et la dérive. Donc, tout ça, je l'ai appris, hein. Donc, s'il y a des voiliers, des marins, vous me confirmerez si j'ai bien appris ma petite leçon. Et donc, premier point, déjà, qu'est-ce que fait un marin pour partir en mer? Il doit déjà savoir où il doit aller. Et ça, c'est vraiment la première chose, c'est de se dire, ben, OK, on ne monte pas juste sur un bateau en se disant, ben, voilà, c'est sympa. Mais on doit savoir où on va. Et en fait, Si on revient tout simplement à Adam et Ève, quand ils étaient vraiment avec Dieu, dans ce jardin, en harmonie avec lui, lui parlaient constamment, ils avaient déjà une mission. Et après, quand le péché est venu, c'est comme si vraiment le mal est venu sur la terre, la mort, la maladie, la souffrance, c'est venu toucher les hommes, les femmes, les enfants, c'est venu toucher la création. Mais Dieu n'a pas supporté vraiment de voir ses enfants distants de lui parce que le péché le séparait de lui. Et du coup, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour pouvoir rétablir cette connexion avec lui, cette réconciliation, et pour pouvoir à nouveau amener le ciel sur la terre. Et vraiment cette harmonie encore, la présence de Dieu sur la terre. Et ça, c'est notre mission à tous, c'est vraiment notre objectif, notre cap divin, c'est d'amener vraiment ce royaume de Dieu là où on est. Et donc pour ça, ben voilà, il faut qu'on sache quel est notre cap, quelle est notre mission. Ça, c'est la mission générale, c'est amener le royaume de Dieu, mais chacun individuellement, pour cette année et en tant que communauté, je pense que Dieu vous a confié une mission. Il vous a peut-être dit, peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous pouvez lui demander, qu'est-ce que Dieu vous a confié ? Est-ce que c'est amener vraiment juste la paix déjà dans votre travail, parce qu'il y a des relations conflictuelles avec les collègues ? Est-ce que c'est vraiment amener le royaume de Dieu dans votre classe, au collège, parce qu'on a les collégiens ? Quelle est ma mission personnelle ? Et j'aime trop ce verset. Ça nous rappelle donc Proverbe 29, verset 18, qui nous dit « Faute de vision, le peuple périt ». Et en fait, si on n'a pas vraiment cette vision, cet objectif de se dire « Ben moi, je veux amener vraiment le royaume de Dieu dans tel domaine. Si vous aimez les arts, si vous aimez la musique, si vous êtes informaticien, ben essayez de vraiment amener le royaume de Dieu dans le domaine de l'informatique. C'est génial, on a besoin de tous les domaines dans notre société. » Mais de vous poser cette question, quelle est la vision que Dieu m'a donnée ? Parce que sinon, on tourne en rond. Et première chose que cette cousine éloignée m'a fait faire pour monter sur le bateau, elle m'a dit, tu mets un gilet sauvetage. Donc j'ai mis le gilet, on a mis le gilet. Et le gilet sauvetage, ça me rappelle un peu notre salut. C'est comme si avec Dieu, on sait qu'on est sauvé. Quoi qu'il en soit, c'est bon, j'ai le gilet, il ne peut rien m'arriver. Je peux partir comme ça. Mais si pas où je vais tourner en rond. Mais c'est sympa de patauger un peu avec un gilet, mais à force, y a plus quoi. Et donc vraiment, le gilet de sauvetage ne suffit pas, mais vraiment c'est... pour atteindre cette destination, vraiment de se dire, mais qu'est-ce que Dieu m'a confié ? Et le plus important, atteindre notre destination, mais pas aussi ça, c'est presque tout aussi important, le processus pour y arriver. Et en fait, qu'est-ce que Dieu va faire dans nos cœurs, dans nos vies, pour atteindre ce cap ? Que ce soit de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Voilà, la vie en communauté, entre frères et sœurs, ben on sait, ça nous aiguille, c'est pas évident. Mais ce processus-là est aussi nécessaire et presque autant nécessaire pour Dieu, pour vraiment parler à nos cœurs et pour avoir impacté nos vies, quoi. Donc, quelle est la mission que Dieu vous a confiée ? Si vous ne savez pas, vous pouvez déjà revenir à la base. Comme le dit Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez demander à Dieu. Et si vraiment... déjà, aimez votre prochain. Vraiment, quel est votre prochain autour de vous ? Est-ce que c'est dans votre quartier, amener la paix ? Est-ce que vraiment, aimer son prochain ? Donc, un cap individuel, mais aussi un cap collectif et communautaire. C'est-à-dire que nous, donc, à Connect, pour ceux qui ne le savent pas, on a donc lancé un camion douche pour vraiment pouvoir doucher que les SDF de Montélimar puissent venir se doucher, avoir des habits, avoir une petite coupe de cheveux et tout ça. On a ouvert un café associatif, si vous ne le connaissez pas, venez voir, invitez vos amis juste devant. Vraiment, l'idée, c'est juste que ce café, déjà, soit imbibé de la présence de Dieu et que peu importe qui rentre dedans puisse être touché. Donc, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez faire la pub, venez. Ça, ce sont des projets et des caps collectifs qu'on s'est fixés pour notre communauté, comment influencer, amener le royaume de Dieu pour notre ville, comment aimer notre ville. Et à la fois, j'ai envie de dire... une association, une organisation, une église ne peut pas juste aimer. Il n'y a que des personnes qui peuvent aimer. Et c'est bien beau, donc tout ce qu'on a fait, c'est génial. Mais à la fois, si nous, personnellement, on n'est pas impliqués à aimer notre prochain, le café, il est là, mais c'est que des chaises et des fauteuils et des cafés. C'est les personnes qui seront dedans, qui vont inviter. C'est vous qui allez pouvoir aimer les gens. Et dans tout ce que vous faites, c'est important. Et dans tout ce que vos communautés, ceux qui sont dans d'autres communautés, font pour le royaume de Dieu, de ne pas non plus se cacher derrière ces caps ou cette mission qu'on s'est fixée en tant que communauté, mais de dire, et moi, quelle est ma part ? Comment est-ce que moi, personnellement, j'aime les gens ? Et ça, vraiment, je vous encourage et je vous défie de vraiment vous-même vous dire, mais moi, quelle est ma mission pour aimer ? Donc, premièrement, avoir son cap. Donc, le cap, ça nous donne la direction et ça nous permet d'orienter ce qu'on avait vu sur le schéma du voilier. Ça nous permet de bouger le gouvernail et de dire, OK, ben, on va par ici, on oriente et on va vers là-bas. Donc, c'est la première chose sur notre voilier de notre vie, c'est avoir notre cap pour nous permettre de bouger le gouvernail et pour vraiment orienter le bateau vers la direction dans laquelle on veut aller. Et ça nous permettra, ça va aussi influencer nos choix, nos priorités. C'est ça aussi, c'est que vraiment, c'est là où je veux aller. Donc du coup, je me donne les moyens. Deuxième point que j'ai appris, c'est par rapport à la voile. Un marin donc, doit savoir où est-ce qu'il veut aller. Et ensuite, il doit tout simplement chercher le vent et adapter sa voile. Et Dieu m'a vraiment parlé par rapport au vent, c'était vraiment le vent de son esprit. Et qu'en fait, pour atteindre le cap que Dieu vous a fixé personnellement ou communautairement, on a vraiment besoin de la présence de Dieu. On a vraiment besoin du Saint-Esprit et que lui vienne nous propulser. Et en fait, il y avait un marin qui était au bord du port. Et puis donc je dis, alors vous allez sortir ? Ah ben non, aujourd'hui on ne sort pas, il n'y a pas de vent. Ah ben oui. Et il me dit, si on sort, on ne va rien faire, on n'ira nulle part. Ah oui, bah oui, bon détail, je n'y avais pas pensé. Mais s'il n'y a pas de vent, on peut aller nulle part. Sans la présence de Dieu, vous avez beau avoir un super objectif, un super cap, vous ne pourrez même pas y aller. Et le pire, c'est qu'après, on y va par nos propres forces. Et il y en avait qui avaient commencé une régate de voilier sans vent. Et ben, je peux vous assurer qu'à la fin, ils y étaient à la main à essayer de faire entrer les voiliers au port. Et franchement, je n'aurais pas aimé être à leur place. Donc sans vent, dans votre mission, si Dieu n'est pas dans votre mission, si Dieu n'est pas dans votre projet, c'est même pas la peine d'y aller. Je vous encourage, restez au port et attendez le timing de Dieu. Attendez que le vent de Dieu vienne pour vraiment souffler dans vos voiles, pour vous propulser. Moïse, avant même de... Quand Dieu l'a mandaté pour libérer le peuple d'Égypte, qui était dans l'esclavage, pour vraiment le rendre libre. Et dans Exode 33, verset 15, il est écrit, « Moïse lui dit, donc il parle à Dieu lui-même, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Et il y avait vraiment ce côté, je pense, c'est vraiment un encouragement pour nous aussi. Si Dieu n'est pas avec nous, si on sent qu'il y a un projet, ouais, est-ce que c'est vraiment... Non, je ne sais pas. Allez, franchement, ne perdez pas du temps ou de l'énergie si vous sentez que Dieu n'est pas vraiment avec vous, dans le sens, si Dieu n'a pas vraiment donné son aval pour que vous fassiez ou que vous accomplissiez cette mission. Donc, un bateau ne sort pas en mer sans savoir d'où vient le vent. Et c'est vraiment le vent, c'est la force du vent qui va déterminer la vitesse du bateau. Et pour moi, c'était vraiment cette image de... Capter le vent, c'est vraiment l'adoration. C'est vraiment, le marin, il doit vraiment adapter sa voile ou la tendre plus ou la relâcher pour qu'en fait, elle puisse recevoir au maximum le vent. Et c'est ça qui va vraiment embarquer le bateau et qui va lui permettre de prendre la vitesse. Et en fait, c'est vraiment capter la présence de Dieu. C'est vraiment capter ce souffle de Dieu. Et il n'y a qu'une chose, ben c'est en adorant Dieu, quoi. Et il y a le roi David qui était appelé aussi le roi selon le cœur de Dieu. Dans le psaume 63, verset 2, dit à Dieu, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. » Et j'aime trop, c'est toi que je recherche. Il le cherche. Comme un marin va chercher le vent, David vraiment cherche Dieu. « Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. » Et c'est seulement en ayant cette priorité-là, en cherchant le vent et en vraiment en allant dans le même sens que le vent, qu'on pourra avancer dans tous vos projets, dans vraiment votre vie personnelle. C'est comme ça va vous propulser, alors que des fois, peut-être vous-même, vous aurez dit « Ah, je ne pensais pas vivre ces choses-là ». Mais si Dieu est avec vous, si vous cherchez la présence de Dieu, mais forcément, les choses vont se passer. Forcément, vous allez prendre de la vitesse. Forcément, il va se passer des choses. Et pour pas une blague ou une anecdote, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, dans le voilier, donc là, il y a la voile, et si on reprend le schéma, en fait, les petites cordes rouges là, qui tiennent la voile, donc qui servent à vraiment tendre la voile ou la relâcher pour capter la présence de Dieu, cette corde, ça s'appelle l'écoute. Et je dis, mais que de mieux pour vraiment refléter ça, que vraiment chercher la présence de Dieu, c'est aussi écouter Dieu. C'est vraiment lui demander, mais qu'est-ce que tu veux? Et sans ça, la voile, elle part. Sans ça, vraiment, il y a ce... Il y a vraiment tout un travail de tendre ou de relâcher vraiment cette écoute pour que la voile prenne le vent comme il faut. Et petite anecdote cette fois-ci. Donc, elle me prend, cette super cousine, sur son voilier. Elle me dit, allez, tout, ça te dit? Alors, je dis, bah oui, tout. Je mets mon gilet de sauvetage. Elle me prend, on commence à partir. Et puis là, alors, je dis, bah déjà, qu'est-ce que je dois savoir? Parce que moi, je me rappelle plus. Hein, mon stage de voilier de CE2, je ne me rappelle plus. Elle me dit, bah écoute, toi, tu fais ça, tu tiens ça, OK. Et si jamais, oh non, t'inquiète pas, il ne pourra pas se renverser. OK, et si jamais, bon, bah, tu sautes, voilà, OK, bon. Et là, on y va, même pas 2 minutes après être parti, le voilier, qui était bien tout droit, commence à se mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on était à 10 cm de l'eau. Et donc là, elle me dit, tends-toi en arrière. Alors, on était carrément à la verticale comme ça, et la grosse voile était en train de... Et là, je me dis, purée, là, c'est bon, on est cuite. Alors, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fais? Je saute où? Entre la voile et la barre. Mais si je me tape la barre dans la tête, je vais tomber dans les pommes. Et si je tombe derrière, je vais me taper dans la dérive, je ne sais plus quoi faire. Et donc là, coup de stress. Elle me dit, tiens-toi. Alors moi, j'étais plus que cambrée tellement j'avais peur de tomber. Donc j'étais, je pense, cambrée en arrière. Et puis là, au final, tout doucement, la voile se relève. Et elle me dit, ben on rentre pas. Donc, j'ai dit, ah oui, OK. mais ça a été ma première expérience avec elle. Et j'ai trop aimé parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu plusieurs contextes, plusieurs raisons. Mais au final, quand on n'apprend pas à capter le vent et à recevoir le vent comme il faut... Si la voile est trop tendue, ça fait chavirer, ça s'appelle dessaler le voilier. Et en fait, vraiment, le Seigneur m'a parlé par rapport au fait de, dans nos vies, l'orgueil qui nous garde trop tendu devant Dieu. Mais il y a ce verset vraiment qui dit, Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la chute. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien compris, que si la voile est trop tendue, si nous, on est vraiment cette... On ne laisse pas Dieu faire ce qu'il a besoin de faire. Ah, il n'y a pas photo, hein. On va complètement s'effondrer et c'est moins rigolo. Et au contraire, si notre voile est trop lâche, le voilier n'avance pas. Et il se laisse dériver en plus par le courant. Et Romains 8, verset 14 nous rappelle vraiment tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Et il y a vraiment cette importance de vraiment capter vraiment la présence de Dieu et vraiment d'adapter ces voiles-là pour que vraiment on puisse être propulsé et éviter justement ou la dérive, enfin de ne pas avancer quoi, ou complètement la chute. Donc cherchons la présence de Dieu et adaptons nos voilages. Autre point, dans le premier point, savoir quel est son cap, ensuite rechercher le vent, rechercher la présence de Dieu. Troisième point, garder son cap et adapter sa trajectoire face au courant contraire. Donc autre petite anecdote. Quelqu'un a voulu rentrer dans l'eau avec son voilier, et sauf que il part et en fait son bateau petit à petit mais complètement indirigeable commence à se emporter par les courants et à se fracasser dans les arbres. Et là j'ai dit, ah oui, intéressant. Et en fait tout simplement la personne avait oublié de mettre la dérive dans le bateau. Et qu'est-ce que c'est la dérive? Si on revient au petit schéma. C'est cette espèce de long truc en bois là qui se met en plein milieu du bateau. Et c'est ce qui va donner vraiment la stabilité au bateau et ce qui va permettre qu'il ne dévie pas face au courant contraire. Et pareil, par rapport à ça, j'ai vraiment senti Dieu me parler. Qu'est-ce qui fait qu'on ne dévie pas face au courant? Qu'est-ce qui fait qu'on ne dévie pas face aux situations de la vie? La dérive, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment cette chose qu'on a besoin de savoir et on a besoin d'avoir cette dérive mise en place au centre de notre bateau. Elle est au centre en plus. Et c'est elle qui fait la stabilité, c'est elle qui va bien profond. Et en fait, sans ça, mais le bateau est indirigeable. Il va se fracasser dans les arbres. Et Hébreux 13, verset 8 à 9 nous dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et donc vraiment, je vous encourage à vraiment bien placer la dérive de votre bateau en place, la parole de Dieu, que vraiment c'est la seule autorité suprême dans nos vies. Si vous avez des choix à prendre, même au collège, on vous tend, allez, wow, on peut quand même passer outre, là, on va dire ce truc et tout, même si c'est pas trop vrai. Stop au compromis, stop à tout ça, ça va faire chavirer le bateau, ça va faire dériver le bateau. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que malgré que cette dérive soit en place, le bateau peut quand même dériver un peu de son cap. Il peut quand même un peu, parce que des fois, les courants adverses sont contraires, sont vraiment contre cette dérive, les courants peuvent un peu quand même faire dériver le bateau. Parce qu'un bateau, il ne va jamais vraiment aller tout droit. Même s'il a son cap là, même s'il est bien orienté comme il faut, même s'il a le vent, même s'il a sa dérive, même si le gouvernail est bien placé, en fait, il va forcément dévier un peu. Il y a forcément, la trajectoire, des fois, va être un petit peu sur le côté. Mais ça m'a rappelé que vraiment, on a aussi besoin d'être plein de grâce les uns et les autres. Dans nos vies, dans notre communauté, notre vie avec Dieu, elle ne sera jamais parfaitement droite, malgré les choix qu'on va faire, malgré on fait de notre mieux, mais soyons aussi pleins d'amour et de grâce les uns envers les autres. Et Dieu, dans son amour, peut toujours nous faire revenir et réorienter notre trajectoire pour continuer d'aller jusqu'au cap. Et c'est quoi ces courants contraires ? Ben justement, ça peut être, franchement, dans la société dans laquelle on est, ça peut être vraiment des philosophies qui sont contre des valeurs bibliques. Ça peut être vraiment même des choses de la vie qui nous arrivent, un courant, ça peut être un accident, vraiment quelque chose qui vraiment va faire un peu bouger le bateau, il va nous pousser avec des mensonges de l'ennemi qui viennent, le doute, si une déception, si on a été déçu par quelque chose, ben l'ennemi qui vient semer le doute, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu guérit ? Est-ce que tu crois ? Et si nous, on laisse ces choses aller, si on ne met pas cette dérive au milieu, on va forcément aller sur le côté. Romains 12, verset 2 nous rappelle « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et pour ça, on a vraiment besoin d'être intentionnel et de faire des points réguliers. Et quelque chose que j'ai appris, c'est qu'un marin, quand il part au large, donc plutôt dans le grand navire qu'on a vu, constamment, ils sont obligés de noter leur position pour savoir s'ils sont toujours sur la bonne trajectoire ou s'ils ont dévié pour réajuster le cap. Et des fois, on doit un peu aussi faire ça avec nos vies, malgré la dérive, malgré le cap qu'on s'était fixé. On doit des fois prendre du temps avec le Seigneur et dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis là ? Est-ce que vraiment ma posture est bonne ? Est-ce que vraiment mon cœur est bien disposé ? Est-ce que vraiment là, je vais dans la bonne direction ou je suis en train de m'égarer ? Et Dieu, dans son amour, va vous redire. Et là, c'est l'occasion vraiment de reprendre le gouvernail en main et de réorienter. Et ce que j'aime, c'est que le gouvernail, des fois, justement, quand il y a trop de courant ou qu'on a commencé à dévier, en fait, le gouvernail, on doit l'orienter pour que, justement, aller presque un peu plus à contre-courant de là où on devait aller, parce que c'est ce courant qui nous a fait dévier. Et du coup, de ne pas avoir peur dans nos vies à, des fois, prendre position et aller un peu à contre-courant, au travail, ça peut être par des discussions que vous avez, même des fois avec certaines personnes importantes, de ne pas avoir peur de dire, mais moi je crois, vous croyez ça, mais moi je crois ça. Et même si ça va dans l'autre sens, et que ça permet que vous ne dériviez pas, allez-y, je vous encourage. Donc un marin doit vraiment être intentionnel pour aller à contre les courants contraires qui le poussent à dériver. Et ça, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est au centre de notre vie, c'est génial, mais après la mettre en pratique, c'est vraiment réactiver le gouvernail pour dire, ok, c'est pas juste de la savoir, c'est pas juste d'avoir des versets, c'est pas juste d'avoir eu des bonnes révélations, mais si on ne les met pas en pratique, on ne pourra jamais remonter le courant et on ne pourra jamais revenir sur la trajectoire qu'on a perdue. Donc, ça c'était mon troisième point. Donc, savoir quel est son cap, chercher le vent et adapter sa voile, s'adapter, garder son cap et s'adapter au courant, vraiment, courant contraire, justement, pour savoir contrecarrer les courants contraires. Et autre point, pour finir, c'était vraiment prendre son rôle et ses responsabilités dans l'équipage. Et j'aime beaucoup cette image que le Seigneur m'a parlé qu'un petit voilier, c'est sympa, ça va faire le tour du lac, on pourra aller de l'autre côté du lac, on peut aller faire une petite promenade, aller sur le petit cap à côté, ou voilà. Mais si vraiment on veut aller traverser une mer, on est obligé d'embarquer sur un grand voilier. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et du coup, le grand voilier, c'est vraiment ce rôle de l'Église, quoi. De vraiment faire partie de la famille de Dieu. On est ensemble sur ce bateau. Et on a besoin d'être inscrit, d'être vraiment dans une communauté, dans l'Église locale. On ne peut pas juste être enfant de Dieu, esselé, et dire « moi, je vais atteindre mon petit cap, ça va être génial. Mon petit bateau, il se manie bien, je fais comme je veux, et voilà. » Non. On a besoin vraiment d'être dans un grand voilier où, du coup, chacun a son rôle. C'est peut-être plus difficile, ça va peut-être plus lentement, mais c'est plus fort et ça va plus loin. Et même dans le petit voilier, quand on est monté à deux, la première chose que cette cousine me dit, c'est « Alors toi, ton rôle, tu tiens cette corde, donc c'était l'écoute, et tu la lâches pas, ok ? Et tu t'occupes de la dérive, ok ? » Et elle s'occupait de la barre et du safran. Je dis « Bon, ben d'accord. » Chacun déjà, on avait notre rôle. Et c'est pareil, en fait, dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que dans ce grand bateau, le grand navire, c'est Jésus, notre capitaine. C'est lui la tête. C'est lui qui nous dit, c'est lui qui nous donne les directives, c'est lui qui nous fixe le cap. Il dit, ben voilà, les amis, c'est là qu'on veut aller. C'est là qu'on va aller déverser l'amour de Dieu. C'est dans cette ville, c'est dans cet endroit. C'est lui le capitaine et c'est lui qui fixe les rôles à chacun, selon ce qu'il sait faire. Il y en a un qui va monter au mât pour fixer les voiles. Et il y en a un autre qui va laver le pont. Et à la fois, si on ne peut pas embarquer vers l'Atlantique, même le meilleur des tendeurs de voile, s'il n'y a pas de cuisinier dans le bateau, il ne va pas faire long feu, quoi. Donc chacun dans le bateau a son rôle et chacun vraiment a sa tâche. Et ça nous rappelle donc Paul qui, dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, versets 11 à 27, exhorte justement l'Église et dit « Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes et tous ces organes dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps, et il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs, non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, ça serait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Et c'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « j'ai pas besoin de toi », ni à la tête, aux pieds, je peux très bien passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Et celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Et il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Et vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Et ce passage, il est long, mais il est vraiment puissant. Et pour moi, c'est vraiment un rappel de vraiment embarquer dans ce grand navire, chacun a son rôle, même si c'est un qui va recoudre les voiles qui se sont déchirées pendant le voyage, pendant la traversée, ou même si c'est celui qui est musclore et qui va, monter, tirer les voiles de toutes ses forces, il n'a pas un qui a un rôle plus important qu'un autre. Et une fois qu'on a embarqué dans cet équipage, demandons au Seigneur quel est notre rôle, comment est-ce qu'on peut servir. Comment est-ce que, en sachant que le cap qu'on peut être fixé individuellement, on ne pourra même pas l'atteindre. Il y a des petits caps, oui, vous pourriez les atteindre tout seul. Mais un cap vraiment, un projet, quelque chose vraiment que vous avez à cœur, qui peut-être est important, même si c'est individuellement que vous le portez, vous ne pourrez jamais y aller si vous n'êtes pas dans un gros navire comme celui-là. C'est-à-dire, vous ne pourrez jamais atteindre un gros cap si ce n'est pas avec d'autres et ce n'est pas en communauté. Et c'est vraiment le rôle, vraiment, ensemble des frères et sœurs, vraiment, qui sont là pour soutenir, pour prier les uns pour les autres et pour vraiment nous aider dans cette grande traversée. Parce que c'est pas... c'était Simon qui dit ça, on n'est pas dans un bateau de croisière. On est vraiment dans un bateau qui est là, il a un chargement d'amour et il va aller décharger cet amour là où le monde en a besoin. Et on n'est pas là donc du coup pour se reposer. Alors oui, il y aura des tempêtes et autre petit point, dans la tempête, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est tout lâcher. Et ça on l'a vu aussi, c'est que d'un coup le phare s'est allumé. Et là, donc vent, machin, phare et tout, je dis oh là là, punaise. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout pas paniquer, surtout pas tout lâcher, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Le bateau vient complètement se fracasser dans la côte, peu importe ce qu'il y a. Mais dans la tempête, l'essentiel, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu. C'est au contraire, c'est garder le gouvernail, garder les voiles, garder la dérive, en sachant que Dieu est là. Et j'aime trop ce verset aussi qui nous dit... Exode 33, verset 14, l'Éternel, donc c'est par rapport à Moïse aussi, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et en fait, quand on traverse la tempête, c'est pas juste le repos de « Oh, Seigneur, je peux plus, là, je te fais confiance. » Je lâche tout, je lâche la voile, donc j'arrête vraiment tout ce qui est adoration, chercher la présence de Dieu, j'enlève ma dérive. Non, au contraire. Essaie au maximum de garder ta voile, de garder ta dérive, de garder le gouvernail. Mais c'est cette confiance que Dieu nous donnera le repos parce que lui-même, il est dans le bateau. Et qu'à un moment donné, c'est lui qui prend les commandes. Mais c'est à nous, c'est en collaboration avec nous. Il ne peut pas, Dieu, il n'est pas juste là pour, on n'est pas des pions. Il veut vraiment agir vraiment en collaboration avec nous, avec son amitié. Et on a aussi notre part à jouer. Et c'est vraiment un encouragement. Et encore dans cette péripétie qui nous est arrivée avec cette fameuse cousine, quand on a failli, mais complètement chaviré, je dis, mais c'est pas possible. Et une chose qu'elle m'a dit, donc elle m'a dit, je suis désolée, on va rentrer au port. Je dis, ah bon? Parfois, j'ai dit, ok, parce que ça m'avait fait un peu flipper quand même. Et elle me dit, en fait, tu pèses pas assez lourd. Je dis, ah ben, on m'a jamais dit ça de ma vie. Hein. et en fait, j'ai vraiment senti le Seigneur me dire, mais en effet... Et juste avant, elle avait fait les mêmes conditions météorologiques avec son conjoint qui, lui, un bon gabarit, le bateau n'avait pas bougé. Moi, voilà, on avait failli... Et j'ai vraiment senti Dieu me dire, mais en fait, c'est Jésus qui me disait, mais c'est moi qui fais le poids. Et dans les tempêtes, là où tu veux aller, il faut que moi je sois dans ton bateau parce qu'il n'y a que moi qui ferai le poids. Et vraiment, c'est cet encouragement de vraiment ne pas partir... Si le Seigneur n'est pas avec vous, si vous sentez que c'est pas le projet ou je sais pas, mais vraiment avoir cette confiance que quand la tempête s'installe et qu'on est au milieu du large, de dire mais Jésus il est dans mon bateau, lui va faire le poids et je vais pas chavirer. Et du coup dans les tempêtes, ben oui il y en aura, mais on peut vraiment dépendre sur Dieu parce que ça aussi, on l'a vu, c'est qu'en fait, si on navigue près des côtes, on a tous nos repères. Et c'est génial. Ah ouais, on va là et tout, hop, là, ah ben là, on va là. Mais sauf que quand on est au grand large, dans le grand navire, où sont les repères? On ne les a plus. Et là, on ne peut que dépendre sur Dieu. Et ça, c'est vraiment le truc de la navigation aussi. C'est qu'une fois dans la tempête, ne pas lâcher, savoir que Dieu est dans notre barque, il fait le poids. Et s'attendre à lui. Donc pour conclure, juste un résumé, demande à Dieu quel est ton cap, si tu ne sais pas quel est ton cap, ta mission, et notre mission en tant que communauté, votre mission, quand vous faites partie d'autres communautés, et d'orienter son gouvernail vraiment vers ça, en fonction des choix, faire des choix et des priorités qui vont vraiment aller de l'avant. Cherchez le vent, oriente tes voiles, de manière à capter un maximum la présence de Dieu. Parce que c'est elle qui nous propulsera pour prendre de la vitesse et pour vraiment aller atteindre cet objectif. Assurons-nous que la dérive est en place au milieu du voilier et soyons intentionnels contre les courants adverses pour réajuster la trajectoire et prendre notre rôle et notre responsabilité dans l'équipage pour aller plus loin. Donc du coup, j'ai vraiment juste envie de prier. Et on peut peut-être tous se lever. Et juste prendre 5 minutes pour prier pour... si vous reconnaissez ou si peut-être vous avez l'impression que bah, déjà vous ne savez pas quelle est votre mission. Ou en tout cas, peut-être vous avez une mission, mais c'est un peu foiré, vous êtes un peu fracassé contre les rochers. Et puis vous dites, bah, en fin de compte, ouais, je sais pas trop, j'ai plus trop envie de repartir, quoi. Et bien, je vous encourage vraiment, je veux vraiment prier, Seigneur, que vraiment tu...